Véroa Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 25 août 2023. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Niger, la junte indique qu'elle autoriserait ses voisins du Burkina Faso et du Mali à intervenir militairement sur leur sol en cas d'agression. Au Gabon, la population se rend demain aux urnes pour élire leur président. Les observateurs régionaux au Zimbabwe ont jugé les élections non conformes aux critères démocratiques. Dans la partie magazine, l'Union africaine invite les pays africains à harmoniser leur réglementation en matière de santé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La junte au Niger indique qu'elle autorisera les forces armées de leurs voisins du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol en cas d'agression. Le point avec Abdourahmane Dia.
C'est une annonce qui intervient à l'occasion de la visite à Niamey des ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali, Olivia Wamba et Abdoulaye Diop. Les diplomates burkinabés et maliens ont été reçus par le nouvel amphore du Niger, le général Abdourahmane Tchiani. Ils ont salué la signature d'ordonnance autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérien en cas d'agression, selon un communiqué rendu public à l'issue de la visite. Le Burkina Faso et le Mali avaient mis en garde la CEDEAO contre toute intervention au Niger qui serait assimilée à une déclaration de guerre, ce qu'ils ont répété hier jeudi. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'organisations et de responsables de médias africains ont demandé ce vendredi au régime militaire nigérien de respecter la liberté de la presse dans le pays. Cette initiative, lancée par Reporters sans frontières, rassemble quelques 80 signataires, dont de nombreux patrons de médias d'Afrique francophone. Ils citent plusieurs incidents depuis le coup d'État du 26 juillet, au cours desquels des journalistes nigériens et étrangers ont été soit pris pour cible dans des manifestations, soit victimes d'intimidations et de menaces.
La guerre et la faim menacent d'emporter tout le Soudan, où des centaines de milliers d'enfants mal nourris risquent de mourir, a alerté l'ONU vendredi dans un communiqué. Ce conflit qui s'étend, ainsi que la faim, les maladies et les déplacements de population qui l'entraînent, menacent désormais d'emporter tout le pays, a indiqué le coordinateur des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Martin Griffith. La guerre a fait près de 5000 morts selon l'ONG Acled, mais le bilan réel serait supérieur car de nombreuses zones du pays sont totalement coupées du monde et les deux camps refusent de communiquer leurs pertes. En 4 mois, plus de 4,6 millions de personnes ont été contraintes de fuir. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen se rendra début septembre en Eswatini, le seul allié diplomatique officiel de l'île en Afrique, afin de resserrer les liens, a annoncé son bureau vendredi. Elle rencontrera le roi Mswati III, visitera un hôpital local et des projets parrainés par Taïwan avant de rentrer à Taipei le 8 septembre. L'Eswatini fait partie des 13 pays qui reconnaissent officiellement Taïwan plutôt que la Chine, qui revendique l'île démocratique autonome comme son propre territoire. Il s'agit également du dernier allié diplomatique officiel de Taïwan en Afrique après que le Burkina Faso a reconnu Pékin en 2018. Au Gabon, la campagne électorale pour le triple scrutin de demain s'achève ce soir. Le président Ali Bongo Ondimba brigue un troisième mandat face à 13 candidats, dont un invité surprise de l'opposition, Albert Ondo Ossa. Les deux adversaires ont tenu leur tout dernier meeting de campagne ce vendredi à Libreville. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
C'est une campagne électorale au début laborieux qui s'est emballée dans ces derniers jours. Deux principaux camps s'offrent plus d'espace en termes de mobilisation avant le sprint final. Il s'agit du Parti démocratique gabonais conduit par son candidat naturel, Ali Bongo Ondimba, 64 ans. Bien que présentant encore des séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2018, le chef de l'État sortant se relance avec l'ambition de conserver le pouvoir. Ali Bongo Ondimba propose une nouvelle offre politique à ses concitoyens. Celle-ci est élaborée autour d'un pacte dit social et républicain. Si ses partisans le lui concèdent, nombreux sont les Gabonais qui expriment leur insatisfaction sur le bilan de son dernier septennat. Des frustrations sur lesquelles surfe une grande partie de l'opposition désormais en ordre de bataille autour d'un candidat consensuel, Albert Ondosa. L'économiste de 69 ans, ancien ministre, est devenu un chantre anti-système Bongo. Il appelle ses partisans à un vote sanction contre le PDG au pouvoir ce samedi. L'un des principaux enjeux de ce tour unique des élections générales reste le taux de participation des électeurs du Gabon et de sa diaspora. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
Les observateurs régionaux au Zimbabwe ont jugé le scrutin présidentiel et législatif non conforme aux critères démocratiques. Annonce faite ce vendredi par la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe. Le point avec Michel Joseph.
Le chef de la mission de la SADC, Nevers Mumba, a déclaré que certains aspects du scrutin ne sont pas conformes aux exigences de la Constitution du Zimbabwe, de la loi électorale et des principes et lignes directrices de la SADC régissant des élections démocratiques. Pendant la campagne, des rassemblements de l'opposition ont été annulés sans raison par la police et le gouvernement, ont souligné les observateurs. Et de nombreux électeurs ont été la cible d'actes d'intimidation présumés, toujours selon eux. Le vote s'est déroulé toutefois dans un contexte calme et pacifique, ont souligné les observateurs. L'opposition a dénoncé des fraudes et entraves d'électeurs. Le scrutin oppose principalement la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980, au principal parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement, menée par Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans. Hier, les États-Unis ont accusé les autorités du Zimbabwe d'avoir arrêté des observateurs et ont appelé à leur libération.
Le président de l'État régional éthiopien de l'Amhara, où le gouvernement fédéral a récemment décrété l'état d'urgence face à un regain de violence armée, a présenté mercredi sa démission, a annoncé le Parlement régional cité par un média officiel. Réuni en session d'urgence, le Parlement régional de l'Amhara a discuté de la situation sécuritaire actuelle. À l'issue des débats, un consensus a été trouvé sur la nécessité de réformes cohérentes selon un communiqué. Yilkal Kefal Asres avait été élu en septembre 2021 par le Parlement régional, très largement dominé par le Parti de la prospérité du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Son successeur est relativement peu connu sur la scène politique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin a démenti vendredi avoir ordonné l'assassinat du chef du groupe Wagner, Evgeny Prigogine. Selon Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, l'enquête sur les causes de la chute de l'avion suit son cours, relevant que Vladimir Poutine avait lui-même dit jeudi en attendre les résultats à Washington, Paris, Berlin et Kiev. De hauts responsables ont sous-entendu que leurs soupçons se portaient sur le Kremlin. Le président russe a signé vendredi un décret obligeant les membres de formation paramilitaire à prêter serment à la Russie, comme le font les soldats de l'armée régulière, deux jours après la mort présumée du patron de Wagner. Fin du compte, à rebours, les géants du net sont soumis depuis ce vendredi dans l'Union européenne à des obligations renforcées de transparence et de lutte contre les contenus illégaux sous peine de lourdes amendes. C'est en vertu d'une nouvelle législation sans équivalent dans le monde. Les explications de John Lindon.
La loi sur les services numériques s'impose désormais aux 19 plus grands réseaux sociaux, plateformes de marché et moteurs de recherche, parmi lesquels Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X ou encore TikTok. Ces entreprises, qui comptent chacune plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'Union européenne, sont astreintes à de nouvelles obligations pour combattre, entre autres, la désinformation, la haine en ligne ou encore les contrefaçons. Il s'agit de protéger nos enfants, nos sociétés, nos démocraties, a relevé la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Les plateformes doivent notamment proposer aux internautes un outil pour signaler facilement les contenus illicites, puis les retirer rapidement. Elles doivent se soumettre à un audit annuel indépendant. Les sites marchands doivent pouvoir tracer les vendeurs pour réduire les fraudes. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial de leur groupe.
Des centaines de Syriens ont à nouveau manifesté vendredi dans le sud de la Syrie pour réclamer la chute du régime, marquant une semaine de protestations sur fond de détérioration des conditions de vie, selon des militants et une ONG. La révolution syrienne se poursuit. Nos revendications de 2011 n'ont pas changé, a déclaré le militant Ahmed al-Moqtad. En marge du rassemblement, la province de Souaïda est le théâtre de manifestations depuis que le gouvernement a levé mi-août les subventions sur les carburants affectant une population déjà éprouvée par 12 ans de guerre. Des centaines de femmes portant des drapeaux d'Israël ont manifesté jeudi dans une banlieue ultra-orthodoxe de Tel Aviv contre ce qu'elles ont qualifié de ségrégation basée sur le genre, particulièrement dans les transports. Le sujet de la ségrégation basée sur le genre n'est pas nouveau en Israël, où nombreux sont ceux qui observent des pratiques religieuses restreignant ou interdisant le mélange des sexes. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Une table ronde a été organisée hier au dernier jour du sommet des BRICS à Johannesburg avec des responsables de l'Union africaine et de 11 pays africains. Le président chinois Xi Jinping a annoncé que Pékin mettra à contribution plus de ressources pour soutenir le développement industriel et agricole en Afrique, notamment à travers l'expansion de la culture céréalière. Le Togo, signataire de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, a ajusté sa politique aux évolutions réglementaires internationales. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a enclenché le processus d'actualisation hier en ajoutant plusieurs pesticides sur la liste des substances polluantes organiques persistantes. Le Ghana va mettre en œuvre un projet de lycée virtuel. La salle de classe traditionnelle en briques et mortier est remplacée par une interface numérique apportant l'éducation directement aux étudiants par le biais de leurs ordinateurs ou appareils, a déclaré le ministère de l'Éducation, qui a annoncé par ailleurs le lancement de deux autres plateformes de formation numérique, dont une développée par Minecraft Education, qui permet à travers le jeu d'apprendre à résoudre des problèmes de société.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Rosine et bonsoir à tous.
Les championnats du monde d'athlétisme se poursuivent à Budapest en Hongrie.
Oui, avec deux grandes finales ce soir sur le 200 mètres. Et tout d'abord, au niveau des dames, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, qui s'est qualifiée de justesse hier au temps en 22 secondes 26, son meilleur chrono de la saison, va tenter de décrocher une médaille. Côté messieurs, le Botswanais Lesile Tebogo vise l'or après l'argent remporté sur les 100 mètres.
De la piste d'athlétisme, nous nous rendons sur les parquets. Coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe du monde de basket en Indonésie, au Japon et aux Philippines.
Et début raté pour deux représentants africains. L'Angola battue 67-81 par l'Italie et l'Égypte qui tombe devant la Lituanie 67-93. Demain, ça s'annonce difficile aussi pour la Côte d'Ivoire qui joue le tenant du titre l'Espagne. Pour le reste, le Cap-Vert dont c'est la première participation va affronter la Géorgie tout comme le Soudan du Sud qui va croiser Porto Rico.
En volleyball, on connaît déjà le représentant africain au tournoi féminin des Jeux Olympiques à Paris en 2024.
Ce sera le Kenya, vainqueur hier de la CAN pour la 10e fois de son histoire, la première depuis 2015, à Yaoundé au Cameroun. Les Kenyans ont dominé en finale l'Égypte 3-7 à 0.
et puis du foot avec le premier tour retour des interclubs de la CAF.
Tout à fait. Et en Ligue des Champions, ça passe pour les Rwandais de l'APR suite à leur victoire de 2-0 sur les Somalais de Gardinkar. Au prochain tour, ils affronteront les Égyptiens de Pyramide. Et qualification aussi pour les Soudanais d'Al Merriek malgré leur nul 0-0 face aux Congolais de l'Est au Toro Doho.
Merci Élisée.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero, de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les présidentielles, législatives et municipales se tiennent samedi au Gabon. Une récente mesure a instauré le scrutin à bulletin unique pour les candidats à la présidentielle et à la députation. Aussi, il se joue sur la majorité relative car il est repassé de 2 à 1 tour. Le président sortant Ali Bongo brigue un troisième mandat face à 13 autres candidats. Certains opposants se sont alignés derrière Albert Ondo, y compris Paulette Misambo, présidente de l'Union nationale. Victoire Lasseni-Dubose reste ainsi la seule femme en lice. Nathalie Barge l'a jointe à Libreville à la veille des élections.
Je me sens porteuse d'un fardeau pour que les femmes comprennent que le grand changement, c'est avec nous les femmes. Et c'est pour cette raison que j'ai pas fait de ralliement aux candidats, aux masculins, parce que je considère que les femmes ont leur place aussi, et une grande place, parce qu'elles gèrent les choses autrement.
Vous êtes une ancienne du PDG. Aujourd'hui, vous vous considérez donc à l'opposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela?
Ce que les gens ne savent pas beaucoup, c'est que j'ai quitté le Parti démocratique gabonais Omar Bongo encore vivant. C'était en 2008 et c'est pour cette raison que j'ai pu me présenter en 2009. Sinon, j'aurais jamais pu le faire étant du Parti démocratique gabonais. Je suis de l'opposition parce qu'au Gabon, vous n'avez que 2 possibilités. Soit être de l'opposition, soit de la majorité. J'aurais pu dire je suis centriste. Malheureusement, il n'y a pas de centriste au Gabon. Il faut choisir. Alors j'ai choisi l'opposition, bien que n'appartenant à aucun parti de l'opposition, ni de la majorité. Pour l'instant, c'est une citoyenne gabonaise qui s'est levée et qui pense qu'avec l'expérience qu'elle a de son parcours, elle est capable de diriger la nation gabonaise.
Alors selon vous, quelles sont vos chances justement pour cette présidentielle?
Les chances, elles sont là parce que les Gabonais et les Gabonaises me connaissent sur l'ensemble du territoire gabonais. Parce qu'à l'époque où j'étais ministre, où j'ai même été présidente des femmes du parti, je n'avais pour ambition que de hisser les femmes et les jeunes vers le haut. On a distribué des micro-projets, 213 micro-projets. On a tellement posé d'actes concrets que les gens me connaissent. Moi, j'ai fait une campagne de proximité. J'ai presque fait une campagne de porte-à-porte. Je n'ai pas voulu les grands meetings. Le vote des femmes, je pense qu'il a changé. Il pourrait changer en mieux cette fois-ci que cela ne l'a été jusque-là.
Il me semble que c'est une nouvelle loi électorale. On est passé de 2 tours à 1 tour récemment, n'est-ce pas?
Oui, on est passé de 2 tours à 1 tour, mais je crois que c'est le jeu du système de se maintenir au pouvoir. Mais il y a pire. Ce qui est pire, c'est que lorsque vous tirez le bulletin du député, la photo du président est aussi sur le même bulletin. Et donc, quand vous tirez le député, vous tirez en même temps le président Ali Bongo Ondimba. Mais ça peut se retourner contre eux. Ça peut se retourner contre eux parce que les gens qui l'ont compris risquent de brimer le député qu'ils auraient voulu retenir à cause de cette double photo que l'on voit partout dans tout Libreville et qu'on retrouvera dans le bulletin.
Victoire Lasseni-Dubose, présidente de l'Union nationale.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
L'Union africaine invite les pays africains à harmoniser leur réglementation en matière de santé afin de faire face à la contrefaçon des médicaments et à la prolifération des médicaments de qualité inférieure sur le continent. De Kigali, le récit de Jean Damascène Manichimwe.
les responsables de la régulation des médicaments et des équipements sanitaires sur le continent africain soulignent que la contrefaçon et la prolifération des médicaments falsifiés restent un défi de taille pour la santé des populations africaines. Et réunis à Kigali, ces derniers ont montré qu'il est urgent d'agir pour changer la situation. Écoutons le professeur Adama Diédiou du ministère sénégalais de la Santé et Wafa El Bakri, pharmacienne marocaine.
La contrefaçon des médicaments, et maintenant on parle de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, c'est assez global, donc il y a eu des évolutions. Et juste pour vous montrer un petit peu la complexité de la question, nous pensons que, bon, au niveau national peut-être, je dirais, il faut des lois, des règlements qu'il faut réviser, mettre en place, qui sont adaptés. Donc, dans la lutte contre ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Donc, ça, c'est la première étape. Et après, donc, renforcer surtout le système de réglementation pharmaceutique à travers, en tout cas, ces agences de réglementation pharmaceutique qui doivent être renforcées en termes de ressources financières, de ressources humaines, donc les compétences.
Les produits falsifiés, en fait, ça reste un challenge très, très important pour les pays africains. On l'observe, c'est un problème qui est très apparent en Afrique. J'espère que les recommandations qui vont sortir de cette réunion vont permettre de diminuer, sinon, pour être très très pessimiste, éliminer ce problème-là. Nous avons besoin d'avoir un produit de qualité et de sécurité maximale et d'efficacité maximale qui soit présenté à tout être humain et surtout au continent africain.
L'Union africaine déplore par ailleurs la réticence de certains pays à se joindre aux efforts déjà mis en place par l'organisation afin de promouvoir la santé sur le continent. À titre d'exemple, le traité de l'Agence africaine de médicaments a été ratifié en 2019 pour entrer en vigueur 2 ans après, mais jusqu'à ce jour, seuls 26 pays africains ont ratifié ce traité. Giulio Rocotonirina est le directeur de la santé à l'Union africaine.
Et plusieurs politiques dictent qu'il faut éliminer un certain nombre de maladies qui affectent la population africaine. Nous n'allons pas parvenir à atteindre les objectifs de ces différentes politiques si nous ne renforçons pas le système de santé.
Si l'Afrique peine encore aujourd'hui à rendre opérationnelle la zone de libre-échange continentale, les observateurs estiment qu'une telle situation retardera aussi le fait de voir l'Afrique libérée des maladies qui compromettent encore le bien-être de sa population. Jean Damasenimane Chimé pour VOA Afrique, Kigali.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité sont en première ligne. Pour les militaires, gendarmes et policiers notamment, la guerre est devenue une réalité, un mal chronique depuis 2015. Dans ce conflit, la Kalachnikov n'est pas la seule arme qu'utilisent les forces combattantes burkinabées. Il y a aussi la musique pour chanter la gloire des personnels de sécurité et de défense, mais aussi pour leur transmettre courage et abnégation. Notre correspondant Didas Da est allé à la rencontre d'un gendarme et d'un militaire qui ont fait de leur art, la musique, une arme au service de leur pays.
Ils sont tombés sur le champ de bataille. Ils sont tombés.
Avec cette chanson sortie en 2023, Kézi rend hommage aux forces de défense et de sécurité burkinabées tombées les armes à la main au front. Artiste, musicien, mais aussi adjudant des forces armées nationales, Kézi, à travers ce titre, avait un objectif double.
Si des gens ont consenti le sacrifice suprême, il y a lieu que nous, qui sommes vivants, nous puissions honorer les mémoires en relevant le défi. Quand vous êtes attaqué, si vous passez tout le temps à vous lamenter, alors c'est sûr que la solution ne sera pas trouvée. Alors, mais quand on s'arme de courage, on se donne la main. Je pense que avec un moral haut, nous arrivons toujours à relever le défi.
Sur ce plan, l'homme sait de quoi il parle. Pour la petite histoire, il a été sur les lignes de front dans la lutte contre le terrorisme. Et une partie des bénéfices de son album est réversé aux familles des soldats tombés au front. Aux côtés de Kézi sur le titre « Ils sont tombés », il y a Wewe, gendarme de son état, et slameur. Et cette volonté de galvaniser les troupes combattantes, le Pandore là aussi, elle lui est même chevillée au corps.
C'est pas seulement avec les armes que nous pouvons lutter contre les terroristes. Voilà, la musique a un impact. Et c'est une autre arme du militaire. La hiérarchie apprécie bien ce que nous faisons. Ce que nous faisons a un impact sur les hommes. Ils ne peuvent que nous accompagner pour qu'on arrive à bout de ce fléau.
Au-delà de la calache, Wewe, rappeur dans une vie civile antérieure, s'est donc forgé au maniement des mots, à la gloire des soldats et pour une cohésion retrouvée.
Même si certains ignorent mes merveilles, je leur dis aujourd'hui que je porterai toujours le treillis pour les mettre à l'abri pendant que je survis, rester en éveil. Jusqu'à ce que sains et saufs ils se réveillent, au premier chant du coq et au vu des premiers rayons du soleil.
Soyons forts, d'un mental de fer, même si nous attirons toujours des corps depuis que c'est Lascar Spavanonor.
À son actif, le gendarme a déjà deux singles qui mettent en vedette, notamment les hommes de tenue. Plus ancien, avec trois albums à son actif, Kézi, qui chante depuis 2005, avait déjà fait parler de lui à travers un titre sorti en 2018. Là encore, l'objectif était le même, galvaniser les troupes. Pour l'adjudant, la défaite est juste impensable.
De telles œuvres pour galvaniser, pour encourager, ça a été aussi une volonté des chefs militaires. Donc je ne peux que les dire merci. Il faut que la victoire soit certaine.
Une victoire pour laquelle il a composé ce hymne à la gloire des FDS burkinabè.
Si tu veux voir de véritables hommes, hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale.
Gilles Dasda.
La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Ouagadougou pour VOA Afrique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
L'ancien président américain Donald Trump s'est rendu hier au tribunal du comté de Fulton en Géorgie de 41 chefs d'accusation, l'accusant lui ainsi que 18 co-accusés d'avoir participé à des manœuvres visant à renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, nous en dit plus. Et récit Arzuma Compaoré.
C'est la toute première photo judiciaire d'un ancien président des États-Unis. Plus tard, dans la journée de jeudi, M. Trump a déclaré à la presse que ses adversaires tentaient de faire échouer sa candidature à l'élection présidentielle.
Ce qu'ils font, c'est de l'ingérence électorale et ils essaient d'interférer avec l'élection. Il n'y a jamais rien eu de tel dans notre pays auparavant.
Monsieur Trump, qui est actuellement le principal candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, n'est pas en état d'arrestation et peut continuer à faire campagne. Hélène Camarque est chargée d'études sur la gouvernance à la Brookings Institution.
Comme vous pouvez l'imaginer, cela pourrait devenir très compliqué, notamment parce que le calendrier des procès coïncide avec celui de l'élection.
Au total, M. Trump fait face à 91 accusations criminelles dans le cadre de quatre affaires distinctes, notamment des allégations de fraudes électorales à New York, de manipulation de documents classifiés en Floride et des accusations devant un tribunal de Washington, selon lesquelles il aurait encouragé l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Mais certains analystes estiment que les accusations portées par la Géorgie sont celles qui ont le plus de poids. Todd Belt est directeur de l'école des études politiques à l'université George Washington.
C'est la plus grave pour lui sur le plan politique. Et la raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est qu'il a été enregistré en train de dire qu'il voulait changer le résultat de l'élection.
Lors d'un rassemblement de prières en Géorgie cette semaine, des membres de communautés religieuses se sont opposés aux appels visant à démettre la procureure Fannie Willis de ses fonctions parce qu'elle poursuit M. Trump. Tonya Anderson, présidente du Legislative Black Caucus.
District Attorney Willis has
La procureure Willis a fait preuve de courage, d'intégrité et d'un engagement inflexible pour défendre les principes de justice qui sont au cœur de notre système juridique. Les efforts qu'elle a déployés pour enquêter sur l'ancien président Donald Trump et le poursuivre en justice envoient un message fort, à savoir que la nécessité de rendre des comptes ne connaît pas de limite.
À l'extérieur du palais de justice, des dizaines de partisans de l'ancien président ont critiqué les charges retenues contre lui. Mais les analystes estiment que le grand nombre de co-accusés pourrait être un facteur clé pour prouver le bien fondé de l'accusation contre M. Trump. Madame Willis veut que le procès de M. Trump et de ses co-accusés démarre le 23 octobre, une date que rejette Trump dans un document déposé jeudi après-midi.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.